VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 26 novembre 2019, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, l'Église catholique dénonce les massacres récurrents de civils dans l'est du pays.
Au Cameroun, le principal opposant Maurice Kamto et son parti appellent au boycott des législatives et municipales de février prochain.
Au Mali, un célèbre avocat, Maître Hassan Barry, a été interrogé par les services de renseignement pour complicité avec les djihadistes.
À Hong Kong, l'écrasante défaite dimanche des candidats pro-Pékin traduit au mécontentement, estime la chef de l'exécutif Carrie Lam.
Ici à Washington, le parlementaire démocrate qui mène l'enquête sur une éventuelle procédure de destitution contre le président Trump promet de remettre son rapport en décembre.
Et une juge fédérale a décidé que la Maison-Blanche doit respecter les assignations à comparaître du Congrès.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Dans l'est de la RDC, l'Église catholique a dénoncé hier le massacre de 80 civils depuis le début du mois à Beni. Elle pointe aussi du doigt des troupes étrangères dans un conflit au sud Kivu. Le point avec Eddie Isango.
Rien qu'en ce mois de novembre, on a dénombré 80 morts dans la région de Beni, sans compter les blessés graves et les disparus, a déploré Monseigneur Marcel Outembi, président de la conférence épiscopale congolaise. Ces massacres sont souvent attribués aux rebelles ADF à Beni après la toute dernière tuerie des 8 civils. Des habitants en colère ont attaqué hier des installations de la MONUSCO et ont incendié la mairie pour dénoncer l'inaction de l'armée et des casques bleus. La CENCO note aussi que des troupes étrangères alimentent des affrontements sur les hauts plateaux des Minembwe dans le sud Kivu. Depuis mai, cette région est le théâtre des violences entre la communauté Banyamulenge, des éleveurs et des membres des communautés Bembe, Bafuleru et Bashi. La CENCO demande la restauration de l'autorité de l'État à Beni et Minembwe. Elle félicite l'armée et la MONUSCO pour les efforts pour combattre les ennemis de la paix. La présidence à Kinshasa a annoncé hier des opérations militaires conjointes entre l'armée et la MONUSCO à Beni, sans autre précision.
Au Cameroun, le principal opposant Maurice Kamto et son parti ont appelé hier à boycotter les législatives et municipales de février prochain. Il dénonce par la même occasion l'organisation de ces élections, alors qu'une partie du pays reste le théâtre d'un conflit meurtrier. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
Le mouvement de la Renaissance du Cameroun MRC appelle les Camerounais à rester chez eux le 9 février 2020 pour ne pas cautionner les élections qui ne ramèneront pas la paix dans notre pays, a déclaré M. Kamto. Il souhaite que tous les partis politiques de l'opposition, la société civile et autres forces religieuses suivent son appel à boycotter ce double scrutin. Organiser des élections au Cameroun aujourd'hui, qui plus est des élections locales sans avoir rétabli la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est donner le message que les populations de ces régions ne sont pas des Camerounais, a dénoncé M. Kamto. Pourtant, mercredi, il avait annoncé la mise en place d'une commission chargée des investitures. Le parti était persuadé que dans un sursaut patriotique, le régime prendrait en compte les exigences légitimes des Camerounais, a déclaré M. Kamto, ajoutant que malheureusement, le régime s'est enfermé dans son mépris habituel.
Au Mali, un célèbre avocat, Maître Hassan Barry, ancien ministre proche de la communauté Peul, a passé 3 jours aux mains des services de renseignement avant d'être relâché hier, et ce en rapport avec une affaire qui nourrit les spéculations sur l'existence ou non de canaux de communication entre Bamako et des djihadistes. Selon une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et authentifiée par ses proches, Maître Barry a rencontré en juin le prédicateur radical Peul Amadou Koufa, chef de la Katiba du Massina, qui sévit depuis 2015 dans le centre du Mali. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Le gouvernement assure dans un communiqué que l'arrestation de Maître Barry vendredi par les services de renseignement n'a aucun lien avec les missions de bons offices qu'il soutient avoir précédemment entreprises. Elle est liée à celle en fin de semaine de 2 membres présumés du groupe djihadiste Ansarul Islam, actif au Mali et au Burkina Faso voisin. Selon une source proche du dossier, Maître Hassan Barry a été arrêté pour complicité avec les terroristes. Les 2 djihadistes présumés étaient à Bamako pour faire du repérage pour d'éventuels attentats, avait indiqué vendredi la sécurité d'État. d'État. Mais il souhaitait également négocier la libération de plusieurs cadres de l'organisation qui sont détenus à la maison d'arrêt de Bamako, dont deux experts en explosifs, selon la même source. Lors de leur interrogatoire, ils auraient affirmé, dit-on, avoir remis une importante somme d'argent à Hassan Bari pour soudoyer des magistrats et obtenir ses libérations. Hassan Bari a été relâché lundi et est rentré à son domicile, a indiqué à l'AFP le bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali, Alassane Sangaré. Une source judiciaire qui confirme cette remise en liberté a expliqué que la procédure judiciaire intentée contre Maître Bari continue.
Les États-Unis ont rappelé leur ambassadeur au Soudan du Sud après l'échec de la formation d'un gouvernement d'union nationale dans les délais prévus, a annoncé hier le Département d'État américain. Le point avec Ekia Badou.
Nous réexaminerons notre relation avec le gouvernement du Soudan du Sud, a prévenu dans un tweet le secrétaire d'État Mike Pompeo. L'ambassadeur Thomas Huchek est rappelé pour consultation liée aux échecs des partis à former un gouvernement intérimaire d'union nationale, a déclaré Morgan Ortagus, la porte-parole de la diplomatie américaine. Le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar avaient jusqu'au 12 novembre pour former un gouvernement d'union, mais ont échoué et se sont donner un nouveau délai de 100 jours. Dans une menace à peine voilée à la mi-novembre, Tibor Nagy, chargé de l'Afrique au département d'État, avait prévenu que les États-Unis ont de nombreux outils à leur disposition et n'hésiteront pas à les utiliser. Depuis décembre 2013, les deux frères ennemis, Salva Kiir et Riek Machar, ont conclu de nombreux accords de paix qui n'ont jamais été respectés. Ce conflit a fait quelque 380 000 morts et contraint 4 millions de personnes à fuir leur foyer.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
À Hong Kong, la chef de l'exécutif, Carrie Lam, a reconnu ce mardi que l'écrasante défaite des candidats pro-Pékin dans le scrutin de dimanche traduit le mécontentement de la population. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, elle a déclaré que ce mécontentement portait sur la manière dont le gouvernement a géré la crise politique que traverse l'ex-colonie britannique depuis plus de 5 mois.
Ici à Washington, une juge fédérale a affirmé hier que les hauts responsables et ex-employés de la Maison-Blanche devaient se plier aux convocations du Congrès. Ce jugement, estime-t-on, pourrait peser sur l'enquête ouverte par les démocrates de la Chambre des représentants pour une éventuelle procédure de destitution concernant le président Donald Trump. La décision de la juge concerne l'ancien avocat de la Maison-Blanche, Don McGahn, dans une enquête séparée, mais également menée par les démocrates. Le ministère de la Justice va faire appel.
Pour sa part, le député démocrate Adam Schiff, chef de la commission menant l'enquête sur l'Ukraine, a affirmé lundi, je cite, que les preuves des méfaits commis par le président étaient claires et il a annoncé qu'il remettrait son rapport en décembre. Ce sera la prochaine étape de cette procédure explosive, Jean-Roger Bion.
Après les auditions publiques historiques de 12 témoins et une quinzaine de dépositions à huis clos, les commissions de la Chambre des représentants en charge de l'enquête sont en train de préparer un rapport qui rassemble les preuves réunies jusqu'ici, a indiqué Adam Schiff dans une lettre à son groupe parlementaire. Ce texte sera transmis à la commission judiciaire à partir du mardi 3 décembre. C'est elle qui sera chargée d'établir sur la base de ce rapport les chefs d'accusation qui pourraient peser contre Donald Trump au Congrès. La Chambre basse à majorité démocrate voterait ensuite pour ou contre cette mise en accusation, impeachment en anglais, puis il reviendrait au Sénat, contrôlé par les Républicains, de mener le procès de Donald Trump. Compte tenu du soutien encore très solide dont il bénéficie dans ses rangs, le président républicain ne sera probablement pas destitué. Depuis le 24 septembre, les démocrates enquêtent pour déterminer si le président Donald Trump a abusé de ses pouvoirs en demandant à l'Ukraine d'enquêter sur le démocrate Joe Biden, un rival potentiel lors de la présidentielle de 2020.
Au moins 143 morts, Amnesty International a revu lundi à la hausse son bilan de la contestation en Iran liée à une hausse du prix de l'essence, évoquant une attaque épouvantable contre la vie humaine. Le même jour, une foule importante s'est rassemblée à Téhéran à l'appel des autorités pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'émeute américano-sioniste.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minuteco, Nani Talani.
Le propriétaire du plus grand transporteur aérien du Nigeria, Air Peace, a été inculpé par la justice américaine. Atan Onyema est soupçonné d'avoir blanchi des millions de dollars aux États-Unis entre 2010 et 2018. Il aurait acheté des avions avec de l'argent provenant de plusieurs de ses fondations. La fraude porterait sur 45 millions de dollars. L'entrepreneur a nié toutes ces accusations. L'Éthiopie s'engage à supprimer les obstacles à l'investissement dans le secteur minier en concentrant ses efforts sur les minéraux utilisés dans l'agriculture et la construction afin de booster son industrialisation. L'Éthiopie, qui possède une industrie minière essentiellement artisanale, veut séduire les sociétés étrangères pour relancer le développement de ses vastes ressources minérales et combler son déficit commercial. Pour terminer, les pays de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, sont en quête de près de 3 000 milliards de francs CFA pour financer une dizaine de projets d'intégration sous-régionale, dont le port sec de Beloko en RCA pour 120 milliards de francs CFA et celui de Dolisi au Congo pour 120 millions de francs CFA, ainsi que la construction de la transnationale Kribi-Kampo entre le Cameroun et la Guinée équatoriale pour 70 milliards de francs CFA. Ces fonds serviront aussi à construire le corridor Brazzaville-Ouesso-Bangui-N'Djamena pour 440 milliards de francs CFA, la route Kogo-Akurenam entre le Gabon et la Guinée équatoriale pour 260 milliards de francs CFA, le corridor Libreville-Mouila-Ndende-Doussala-Dolisie-Brazzaville pour 152 milliards de francs CFA, ainsi que la route Mbairoko-Mbendia-Bekoniga entre le Tchad et la Centrafrique pour 84 milliards de francs CFA.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Gambie et le Mali s'accrochent au tournoi UFOA.
Oui, pas de vainqueur dans le premier match de ce groupe B. La Gambie, championne en titre, et le Mali se sont séparés sur un score d'un but partout. Ce fut l'unique match d'hier après le forfait de dernière minute de la Guinée-Bissau. Le Libéria exempté fera face à la Gambie ce mercredi. Le tournoi se poursuit ce soir avec deux matchs dans le groupe A. Guinée, Sénégal et Mauritanie, Sierra Leone.
L'Espérance de Tunis affrontera Al Hilal au Mondial des clubs 2019.
Le tableau du tournoi est désormais complet avec les succès de Flamengo et Al Hilal respectivement en Copa Libertadores et en Ligue des champions asiatiques. Représentant de l'Afrique, l'Espérance de Tunis, vainqueur de la Ligue des champions, débute son tournoi au second tour. Les Saints et Or affronteront les Saoudiens d'Al Hilal le 1er décembre. En cas de qualification, le club tunisien fera face en demi-finale à Flamengo. Le club brésilien s'est imposé samedi contre River Plate en finale de la Copa Libertadores 2-1. La Coupe du monde des clubs prendra fin le 21 décembre au Qatar.
Ligue des champions ce soir.
Sous l'impulsion d'Angel Di Maria et d'Idrissa Gana Gueye, le PSG avait éteint le Real lors de la première journée au Parc des Princes. Une victoire aux aides de revanche qualifierait les Madrilènes pour le tour suivant. Un nul suffira par contre aux Parisiens pour s'assurer la tête du groupe A. La première place, c'est ce que vise aussi le Bayern Munich en déplacement chez l'Étoile Rouge de Belgrade. Dans ce groupe B, Tottenham et son nouvel entraîneur José Mourinho ont une qualification à obtenir contre l'Olympiakos. La tâche sera encore plus aisée pour Manchester City, qui n'a besoin que d'un match nul contre le Shakhtar Donetsk pour atteindre son objectif. À suivre enfin le choc Juventus-Turin-Atlético Madrid. Les partenaires de Cristiano Ronaldo sont déjà qualifiés au contraire des hommes de Diego Simeone, qui le seraient seulement en cas de victoire.
L'Agence mondiale antidopage recommande une suspension de la Russie.
Oui, l'AMA reproche aux Russes la falsification des données de laboratoire transmises à ses enquêteurs. Elle réclame alors la suspension de la Russie pour 4 ans. Si cette recommandation est adoptée par le bras exécutif qui se réunit à Paris le 9 décembre, la Russie ne pourrait pas participer aux prochains Jeux olympiques d'été et d'hiver, aux JO de la jeunesse et aux Jeux paralympiques et ne pourrait pas non plus accueillir certains matchs de l'Euro 2020 de football pour le moment programmé à Saint-Pétersbourg. On finit avec du basketball, avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Oklahoma City et Golden State 100 à 97 et les Lakers et San Antonio 114 à 104, Brooklyn et Cleveland 108 à 106, Détroit et Orlando 103 à 88, Indiana et Memphis 126 à 114, Minnesota et Atlanta 125 à 113, Boston et Sacramento de justesse 103 à 102, Miami et Charlotte 117 à 100, Toronto et Philadelphie 106 à 96, Portland et Chicago 117 à 94, Milwaukee et Utah 122 à 118.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, la colère des émeutiers était surtout dirigée contre les forces des Nations Unies, accusées de ne rien faire pour leur sécurité dans l'est du pays. Ils ont envahi et mis le feu hier en camp de l'ONU à Beni, après que les habitants ont dénoncé un nouveau massacre de civils attribué au groupe armé des ADF, ainsi que ce qu'ils ont appelé l'inaction des casques bleus. Pour une analyse, Bakassi Koura a joint hier à Beni Nikaise Kibel-Beloka, directeur de publication des coulisses.
Depuis 3-4 jours, on accuse les Nations Unies, la MONUSCO, d'être inactives, de ne pas intervenir dans les opérations, de ne pas appuyer les FRDC dans les opérations au front. Alors la population avait levé l'option de demander le départ de la force onusienne. Bon, aujourd'hui, ça a dégénéré avec la tuerie de 8 personnes dans la nuit de dimanche à ce lundi.
Et comment est la situation en ce moment?
Toute la journée, la situation était très très tendue. Les manifestants ont réussi à incendier l'hôtel de ville de Beni. Après, ils sont descendus à l'une des bases de la MONUSCO. Ils ont réussi à entrer et à piller certains effets, à brûler même des véhicules. Et ils ont été contenus quand ils sont arrivés au niveau de la deuxième base qu'on appelle Madiba. Et il faut dire que toute la journée, la ville a été paralysée et que vers les 16h, 17h, le calme semble revenu, mais on ne sait pas comment sera demain.
Alors, on a l'impression aussi que cette situation est favorisée par les autorités congolaises. Hein, quand on écoute Jeanine Mabunda, qui est la présidente du Parlement congolais, elle s'est interrogée sur le rôle de la MONUSCO au Congo.
Le problème, c'est que c'est un peu en retard qu'on s'interroge sur ce rôle-là. Il faut dire aussi que la déclaration de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, qui a dit que la MONUSCO ne participait pas à l'opération, ça aussi, ça n'a pas été bien apprécié. Au fait, de part et d'autre, la communication ne semble pas être bien maîtrisée, parce que lorsqu'on déclare cela et qu'il y a mort d'homme, naturellement, la population ne comprend pas pourquoi la MONUSCO peut être à Beni et on tue devant elle sans réagir. Naturellement aussi, lorsque la présidente de l'Assemblée nationale déclare cela, ça donne un peu de la force à la population qui manifeste et qui demande avec violence le départ des troupes de la MONUSCO.
Si les populations sont fâchées contre l'inaction de la MONUSCO, pourquoi elles s'en prennent à la mairie?
Alors il faut dire que d'abord la région de Beni est infectée de groupes armés. Rien n'exclut que dans la population il y ait eu des groupes armés, notamment des Maïmaï qui sont entrés, parce qu'il n'y a pas de raison que la population puisse s'en prendre au symbole de l'État. Il n'y a vraiment aucune raison.
Joint hier à Beni, notre confrère Nikaise Kibel-Beloka.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Le Cameroun se prépare aux élections locales et parlementaires prévues le 9 février. Des jeunes ont organisé plusieurs manifestations à travers le pays pour protester contre ce qu'ils appellent le vieillissement de la classe politique. Ils exigent davantage de poids en politique et demandent que les octogénaires partent à la retraite. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, repris ici par John Linden.
De jeunes militants du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, crient et chantent qu'ils ne veulent plus que de vieux politiciens les représentent. Près de 400 jeunes ont érigé des barricades et ont manifesté dans le quartier Vongbi à Yaoundé. Aristide Ongba, 27 ans, est membre de la jeunesse du RDPC.
On nous impose des dramatères de 81 ans. Les mêmes gens qui ont commencé en 95, ils sont au pouvoir, ils sont toujours à la mairie jusqu'à aujourd'hui. Où est alors la place de la jeunesse? On sort d'où? Les jeunes souffrent!
Ces jeunes ont manifesté dans au moins 23 villes contre des politiciens âgés encore candidats aux élections locales et législatives de février. Dans la ville de San Melima, un groupe de jeunes en colère a organisé une cérémonie qui a été suivie d'affrontements qui ont fait au moins 7 blessés. Dans la ville de Tocombéré, des jeunes ont interrompu une réunion qui, selon leur dire, visait à imposer le député Kava Yege Djibril, âgé de 81 ans, comme candidat de leur région. Kava Yege Djibril est député depuis 47 ans et président de l'Assemblée nationale du Cameroun depuis 27 ans. Pour Ibrahima Baskouda, 33 ans, trop, c'est trop.
Il ne s'est jamais présenté à une manifestation. Il n'a pas soutenu le parti. Il a abandonné le parti. Au jour d'aujourd'hui, on veut nous l'imposer encore pour qu'on souffre pendant 5 ans encore. Le peuple dont nous sommes les représentants du parti à la base, on dit non.
Dans la ville d'Ebebda, des jeunes Camerounais ont pourchassé la députée Cécile Epondofouda, âgée de 62 ans, qui a annoncé son intention de se représenter après 15 ans de mandat. Bernard Fongan est un haut responsable du parti au pouvoir et un proche du président Paul Biya.
Nous pensons que les jeunes peuvent être de très bons électeurs et également de très bons candidats. Et comme très bons candidats, nous leur demandons de jouir d'une bonne moralité, de faire la campagne du parti et surtout de savoir servir et non se servir.
Biya lui-même, 87 ans, est le plus vieux dirigeant du continent. Il est au pouvoir depuis près de 40 ans. Des critiques soulèvent la santé fragile du président qui vit une bonne partie du temps en Suisse. En cas de vacances du pouvoir, c'est Marcel Niat Difendi, président du Sénat, âgé de 84 ans, qui devra assumer l'intérim. 70% des députés camerounais et 80% des sénateurs ont plus de 60 ans. Les jeunes manifestants disent qu'il est temps pour eux de passer la main à une génération plus jeune pour préparer l'avenir du Cameroun.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En Guinée-Bissau, les électeurs attendent la publication des résultats de la présidentielle qui a opposé dimanche 12 candidats. En tout état de cause, le vainqueur de cette consultation va hériter d'une situation économique et sociale difficile, notamment dans le secteur de la santé qui traverse une crise aiguë. Les malades qui le peuvent vont se soigner dans les hôpitaux de la sous-région, alors que les médecins du pays montent au créneau pour dénoncer leur manque de moyens. Reportage de Nari Kaline Lopi.
Dans l'hôpital Simon Chmendish, le plus grand de la capitale bissau-guinéenne, les malades se pressent pour être auscultés. Au milieu de l'établissement, le service pédiatrique.
Normalement, non consulte. Permettez pour recevoir pas dire, nos maximum est 25.
Normalement, je devrais voir 25 patients par jour, mais dans les faits, j'en vois plus de 60. Nous ne sommes que deux médecins.
12 médicos, pas dire.
Sadjolele a 28 ans et déjà plusieurs mois de pratique dans cet hôpital. En Guinée-Bissau, le secteur médical est sinistré. Peu de docteurs, pas de médicaments. Dans la salle de consultation couleur vert d'eau, le jeune pédiatre nous explique son quotidien.
On ne souhaite pas aller vite, mais on est pressé par le temps parce que parfois on a beaucoup de patients. C'est pourquoi on consulte rapidement et parfois on n'a pas assez le temps de terminer le diagnostic. Et parfois les gens rentrent chez eux et nous disent que ça a empiré.
L'hôpital manque de moyens. Les candidats à la présidentielle se sont tous exprimés en faveur d'une refonte du système de santé. Alors qu'en pensent les médecins?
Je n'ai pas beaucoup d'espoir. Peu importe celui qui gagnera la présidentielle. Ils ont fait beaucoup de promesses non tenues concernant l'hôpital et l'école. Et on n'a rien vu se produire. Je n'ai plus confiance.
Désabusé, Sadjolele ne croit plus au discours. L'année dernière, il n'a perçu que 2 mois de salaire. Il part poursuivre ses consultations. Après le rez-de-chaussée, le premier étage est l'aile réservée aux nouveau-nés. Uniforme bleu marine, Maria Rosa est infirmière. Elle dresse le même constat que son collègue.
Nous n'avons que 7 lits, carrément tout le temps occupés. Donc, lorsque nous observons qu'un enfant va mieux, il sort et nous acceptons un nouveau patient.
Aujourd'hui, le principal hôpital de la capitale ne pourrait pas fonctionner sans aide venue de l'étranger. C'est le cas pour les nouveau-nés, nous explique Maria Rosa.
Pour le moment, on n'observe pas de difficultés parce que, en ce moment, le service pédiatrique est soutenu par des organisations non gouvernementales qui nous donnent des médicaments. C'est ce qui nous permet en ce moment aux parents de ne rien avoir à acheter.
Durant la campagne présidentielle, chaque candidat s'est engagé en faveur d'un meilleur accès aux soins. Aujourd'hui, les Bissau-Guinéens demandent à voir. Ndari Kalinglopi à Bissau pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'enquête de la Chambre des représentants sur une éventuelle procédure de destitution contre le président américain Donald Trump ici à Washington continue d'attirer l'attention à travers le monde. Par exemple, à Dakar, au Sénégal, les citoyens sont d'avis que cette procédure renforce le statut démocratique des États-Unis et ils sont convaincus que M. Trump n'est pas exempt de tout reproche. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
Donald Trump, destitué de son poste de président des États-Unis, l'idée ne déplaît pas à certains Sénégalais. Ces derniers lui reprochent un caractère trop autoritaire et une antipathie vis-à-vis des migrants. Pour Mohamed Sy, un opérateur économique, Trump ne devrait pas durer à la tête des États-Unis.
Sa politique d'immigration reste à désirer. À la limite, c'est une politique désastreuse. C'est un président trop impulsif et parce qu'il est... C'est suffisant, il fait le gendarme, alors qu'à ce 20e siècle-là, c'est pas comme ça qu'on gouverne. Je sais qu'il ne peut pas durer là-bas. Même si on ne le destitue pas, à l'heure où je parle, je sais qu'il ne peut pas avoir un deuxième mandat.
Ange-Marie-Claude Lambal est dans la même logique. Cette étudiante estime que les États-Unis ont besoin d'un président qui inspire la sérénité et la paix dans le monde. Ange-Marie aussi reproche à Trump sa politique migratoire.
Il y a un nombre important de Sénégalais qui ont été rapatriés depuis qu'il a été élu président. En même temps, il est à l'origine de plusieurs conflits. C'est une personne, en tout cas, qui cherche trop de conflits autour de lui, qui crée trop de conflits autour de lui. L'humanité a besoin d'un président vraiment qui apaise les peuples, les relations entre les États-Unis et les autres pays.
Cette procédure de destitution renforce l'image démocratique des États-Unis. Tel est l'avis de Papa Mor Mbaye, pour qui cela est un exemple pour le reste du monde.
Cette procédure est une procédure qui montre la voie de la démocratie. Les États-Unis, voilà, montrent toujours que c'est une grande démocratie et que tous les citoyens sont au même niveau d'égalité. Même le président qui, toutefois, est fautif peut être poursuivi ou bien même être atteint de cette procédure de destitution. Je pense qu'il est plutôt coupable que victime dans la mesure où, depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême des États-Unis, il a posé quand même des actes qui ne le grandissent pas et voilà, qui ne sont pas en marge avec la démocratie incarnée par ce grand pays, les États-Unis d'Amérique.
Alors que l'issue de la procédure de destitution du président américain Donald Trump n'est pas encore certaine, les Sénégalais rencontrés perçoivent positivement cette action initiée par les démocrates. Pour certains, cela montre que les acquis démocratiques sont inaliénables aux États-Unis. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le monde. monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.